Alors, on va essayer de présenter assez rapidement ce sujet sur la violence sociale à l'encontre du végétarisme pour les animaux et l'état des lieux qu'on a fait de la végéphobie avec Yves, entre autres, et aussi un peu avec David. On va essayer de le faire rapidement parce qu'après, ce serait bien qu'on puisse discuter, débattre, échanger des expériences, des critiques, etc. Mais on va essayer de le faire rapidement, mais en même temps, c'est pas dit qu'on y arrive. Donc, je vais commencer... Voilà. Par le fait que les luttes sociales contre les discriminations ont été réussies parce que ont émergé parce qu'il y a une minorité qui a ouvert un débat dans la société et que plus en fait la question a été débattue, je parle par exemple pour le racisme, l'esclavage, des choses comme ça, plus la question a été débattue dans la société et plus cette minorité s'est développée et plus les idées ont un petit peu changé. Donc le débat, c'est très important pour réussir à faire émerger des idées, à changer la société. Et nous, quand je dis nous, en fait, militants pour les animaux, tous ceux qui ont un petit peu d'espoir que les choses changent pour les animaux, on sait tous, je pense, combien c'est difficile de débattre honnêtement de la question animale, en tout cas en France, et à mon avis ailleurs. C'est-à-dire qu'on a tous été confrontés à des moments où on a eu de la mauvaise foi, voire de l'agressivité, des choses comme ça. Donc des choses qui ferment un petit peu le débat, qui permettent pas en tout cas un débat ouvert et serein. Et je pense que si on a cette censure, en fait, qui fait que les idées sont mal diffusent mal, alors que finalement ce qu'on dit c'est quand même assez simple à la base, en tout cas pour ce qui est de la question de la viande, c'est-à-dire que les animaux souffrent, ont pas envie d'être tués, c'est simple comme idée, donc nous on n'a pas besoin de les tuer pour vivre, donc ne les tuons pas, et ça c'est une idée hyper simple qui a du mal à passer, quoi. Et je pense que c'est pas juste parce que les gens aiment la viande et ont envie d'en manger, c'est clair que ça joue énormément, mais je pense aussi qu'il y a tout un système derrière qui fait que personne a envie non plus de dire ça clairement, quoi. Le fait, c'est que nous, végétariens pour les animaux, on est assez inaudibles dans la société, alors qu'on a des idées qui sont pas non plus complètement révolutionnaires. Et dès qu'on veut mettre en avant le sort des animaux d'élevage, on se retrouve, on est marginalisé à des degrés divers. Donc c'est ce qu'on va développer un petit peu par la suite. Donc on est marginalisé, ça veut pas dire forcément qu'on nous met dans des camps, quoi, mais c'est degré par degré. Il y a des choses qui nous censurent. Donc cette censure, on l'a appelée la végéphobie en référence à la première fois où elle a été nommée, c'est-à-dire dans le manifeste de la Veggie Pride. Donc, je sais pas quand s'il a été publié à la première Veggie Pride, où on parle de la végéphobie. Et on a voulu, avec Yves, étudier les différentes formes qu'elle prend, les conséquences pour nous, végétariens, mais aussi pour les animaux. Donc, comment la définir? Donc, végéphobie, c'est pas très difficile. C'est végéphobie, donc phobie, peur, haine, etc. Mais on peut surtout le mettre en parallèle avec d'autres mots comme homophobie, xénophobie, etc. Donc, c'est les sentiments de mépris, de haine et tout ça qui l'accompagnent. Et ce rejet, je pense qu'il est dû au fait que les végétariens, même s'ils disent rien, même s'ils font juste que refuser la viande à un repas, ils remettent en cause un système d'oppression, en fait, et ça dérange, quoi. Donc, pourquoi la comparaison avec l'homophobie, Yves?
En fait, on a voulu aborder ce thème-là sous un angle politique et non pas, par exemple, psychologique, qui est un peu une façon beaucoup plus habituelle dont on aborde les réactions, par exemple, agressives des gens. On a vraiment voulu essayer de livrer un état des lieux, d'une part, mais ensuite vraiment des analyses qui sont plutôt politique sur la fonction sociale des réactions hostiles qu'on rencontre et sur l'impact que ça a sur nous, sur la façon dont ça a un impact aussi sur nous, comment on envisage la lutte par rapport à la question animale. Et si on a repris le parallèle avec l'homophobie, c'était sur l'aspect politique, même si on aurait pu le reprendre aussi sur l'aspect un peu psychologique. C'est-à-dire que l'homophobie, traditionnellement, c'est... le rejet que suscite l'homosexualité. Et à l'heure actuelle, c'est beaucoup analysé en des termes psychologiques. Alors que quand le terme a commencé à être utilisé dans les années 70, c'était beaucoup plus sous un angle politique. C'est-à-dire comme un ensemble de... C'était peut-être pas formulé sous cette façon-là, mais c'était beaucoup formulé comme un rapport à la normalité. Mais c'était l'idée sous-jacente, c'était que l'homophobie, c'était finalement l'expression de défense d'un système de domination et de... Et de, oui, de coercition, qu'on appelait à l'époque, enfin, bon, qui a eu plusieurs noms, mais le patriarcat, l'hétéropatriarcat, l'hétérosexisme. Un système social qui est fondé sur une stricte séparation des genres, masculin et féminin, sur la domination masculine, sur la contrainte à l'hétérosexualité, etc., ou l'hétérosexualité comme norme. Et du coup, l'homophobie, même si ça a des explications psychologiques, c'est-à-dire que c'est, il y a des raisons pour lesquelles chaque individu va être chaque individu en tout cas hétéro, mais même homo va avoir des comportements homophobes, même si il y a des raisons qui viennent de sa structuration psychologique, il n'empêche que ça fait système et que ça joue un rôle social qui est un rôle de répression, en fait, de l'homosexualité et de mise en garde aussi des personnes hétéros de pas de se tenir à distance. Dans les années 70, clairement, la notion d'homophobie, c'était une notion politique avant toute autre chose. Alors, quand je dis politique, il ne s'agit pas de politique politicienne, il s'agit de ce que j'appelle la politique, c'est l'intervention dans la vie sociale, dans la vie de la cité, sur les règles de la vie sociale, les coutumes, les lois, ou sur les valeurs fondatrices de la vie sociale. Donc c'est quand on va utiliser le mot politique, c'est vraiment dans ce sens général-là, quoi, d'intervention globale dans le type de fonctionnement de la société, quoi. Et donc en fait le parallèle avec l'homophobie, c'est un parallèle qui est intéressant au moins dans le sens qui était donné dans les années 70 à ce mot. C'est-à-dire que c'est dire que la végéphobie, indépendamment d'une certaine façon des raisons pour lesquelles les individus l'expriment, c'est quelque chose qui fait système et qui joue un rôle de répression du végétarisme, tout spécifiquement par rapport aux animaux, c'est-à-dire que le végétarisme, pour d'autres raisons, que ce soit par solidarité avec le tiers-monde ou par sentiment écologique ou par volonté d'élévation spirituelle ou pour sa santé personnelle, tout ça, ce sont des végétarismes qui se heurtent beaucoup moins, voire pas du tout, à des réactions de rejet ou à des réactions violentes, etc. Alors que le végétarisme pour les animaux, c'est clair, c'est quelque chose qui touche les gens et auquel ils réagissent de façon assez virulente. Et du coup, l'homophobie, c'est quelque chose qui peut être vu comme un ensemble de dispositifs sociaux, enfin, au-delà donc du simple aspect psychologique, qui vise à marginaliser en fait la solidarité avec les animaux qui s'exprime à travers le végétarisme et qui vise à empêcher finalement l'expression d'un refus de l'exploitation des animaux ou l'expression d'une remise en cause de l'exploitation des animaux. C'est dans ce sens-là que nous on a repris le terme de végéphobie, on a repris le terme de végéphobie par analogie avec le terme d'homophobie, quoi.
Donc pourquoi on dénonce la végéphobie? Non, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que l'aille vite.
Ah oui, c'est vrai, vite.
Donc pourquoi dénoncer la végéphobie? Parce qu'on pourrait dire que c'est pas grave aussi, la végéphobie, c'est pas grave par rapport à ce que subissent les animaux, parce qu'on est tous conscients qu'effectivement ils souffrent énormément. On la dénonce quand même parce que face à des réactions végéphobes, les végétariens, qui sont finalement quasiment les seuls avocats des animaux, en tout cas des animaux d'élevage, donc de 99% des animaux qui sont tués, bon je sais pas si c'est ça, mais de la grande majorité des animaux qui sont tués, Donc, parce que face à des réactions végéphobes, les végétariens se découragent, donc ils peuvent se décourager de certaines façons, ils peuvent décourager en se taisant, donc ce qui fait pas vraiment avancer la cause animale. Enfin, en se taisant, c'est-à-dire en essayant de vraiment se faire petit, de pas dire qu'ils sont végétariens ou de pas dire qu'ils sont végétariens pour les animaux. Ce qui fait que le débat dans la société, bah, il est déjà étouffé à la base. Ils peuvent aussi simplement arrêter d'être végétariens parce que c'est difficile, et c'est vrai que c'est quand même difficile d'être végétarien. Et de toute façon, même quand ils ne découragent pas, qu'ils continuent à parler, leur parole, elle est délégitimée, ou alors elle est dépolitisée, parce qu'on essaye, on fait tout pour pas, pour faire taire le fait que ce soit pour les animaux, voilà. Donc, ou que ce soit, ou en tout cas, c'est un choix, on fait comme si c'était un choix personnel, comme si la personne était très particulière, c'est pour ça qu'elle est végétarienne, mais que c'est pas du tout un changement de société qui est attendu. Donc, finalement, la végéphobie, c'est grave pour ça, quoi. Et c'est grave parce que, ça met pas les conditions nécessaires pour mettre en place ce débat qu'on attend et qui est important. Donc, quand on nous dit souvent aussi que quand on parle de végéphobie, on se pose en victime et que c'est indécent par rapport à ce que vivent les animaux, parce qu'effectivement, le fait qu'on aille à la cantine et qu'on n'ait pas à manger, c'est pas très grave par rapport au fait d'être un animal et d'être élevé, tué, etc. Sauf que ce que je pense, c'est que la violence qu'on a quand on va à la cantine et qu'on n'a pas de viande, qui est très relative, on est d'accord, et la violence des animaux qui sont tués, c'est pas une différence de nature, en fait, c'est une différence de degré, c'est-à-dire que c'est une violence qui vient exactement de la même chose, et que c'est que à travers nous, en fait, c'est les animaux qu'on attaque. Comme si on était des gens qui défendions par exemple des noirs ou je sais pas quoi, et qu'on était attaqué par rapport à ça, quoi. Voilà. Après, c'est pas des attaques très directes en général, mais c'est quelque chose de même nature. Voilà. Comme si parce qu'on affichait notre solidarité avec les animaux, en fait, on endossait une part de leur infériorité et qu'on était nous aussi un petit peu écartés, en fait, de la société. Voilà. Donc évidemment, on n'atteint pas du tout le degré d'injustice qu'atteignent les animaux, parce qu'on appartient quand même à l'espèce dominante, hein. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de la mise de côté, un peu symboliquement. Voilà, donc là ça fait peut-être un peu gros, c'est ce qu'on m'a dit, que l'introduction ça faisait gros et qu'on n'y croyait pas, donc on va en arriver à l'argumentation. Avec Yves. Pour commencer.
Alors on s'est livré à un état des lieux qui est sûrement pas complet de ce qu'on a appelé la végéphobie. Qu'on a divisé en deux parties, en fait. D'une part, les types de végéphobie qui se jouent dans les relations interpersonnelles avec notre entourage, enfin entre individus ou entre l'individu et le groupe, et les types de végéphobie qu'on a appelés institutionnels, qui sont plus liés au rapport avec les institutions, alors que ce soit le corps médical ou que ce soit les institutions si les grosses institutions comme l'école ou l'entreprise, enfin par exemple le rapport aux cantines ou même à l'État. Donc on va en parler de façon séparée. Enfin moi je vais commencer à parler un peu, mais rapidement aussi, parce que bon, je trouve que c'est de toute façon relativement détaillé dans la brochure et puis en plus bon, c'est des choses qu'on vit, donc il n'y a pas besoin de s'étaler dessus, mais. Sur ce que nous on a listé comme étant des expressions du rejet du végétarisme pour les animaux, c'est-à-dire en fait les tentatives de nous faire taire ou de nous marginaliser ou de nous délégitimer quand on remet en cause l'exploitation animale, particulièrement donc sur la question de la consommation de la viande, qui est une question centrale dans cette problématique. Alors les différents types d'expression de la végéphobie qu'on a listés, c'est les moqueries. Je pense que personne ici qui est végétarien a échappé aux moqueries. C'est les types de déni ou de silenciation. C'est le dénigrement. Et ensuite, c'est aussi le relativisme moral, etc. Alors pour les moqueries, en soi, il y a énormément de types différents de moqueries qui vont jouer sur des registres différents. Là, c'est pareil, on a fait un petit listing, mais qui est sûrement pas exhaustif, et puis ça pourrait être des classements qui pourraient être effectués d'autres façons. Mais il y avait déjà, par exemple, toutes les moqueries qui visent à délégitimer notre sensibilité comme n'étant pas fondée en raison, et qui passe très souvent par en fait des par nous ramener à des à utiliser en fait des préjugés sexistes ou agistes pour disqualifier en fait l'expression de nos sentiments. Enfin, c'est grosso modo c'est la transformation d'une sensibilité liée aux animaux en une sensiblerie. Et derrière l'idée de sensiblerie, il y a l'idée que c'est une, ce sont des émotions qui s'expriment en dépit du bon sens, quoi. Elles s'expriment en dépit du bon sens. Pourquoi ? Parce qu'elles portent sur les animaux qui ne peuvent pas être, par définition, des sujets importants, des sujets sérieux, des sujets, quoi. Bah, et notamment, enfin, ça va être des trucs du style la carotte, elle crie quand tu l'arraches, qui est un truc. Une sorte de truc par l'absurde qui vise à nier le fait qu'on puisse avoir des raisons de sérieuses d'être végétarien. Mais on a entendu des trucs du style « tu veux pas manger Bambi », la référence aux petits enfants qui sont censés ne pas être logiques et être manipulés par leurs émotions. Mais il y a aussi s'adressant aux garçons « t'es pas une fille » ou « t'es pas une fiotte ». Ce genre de trucs qui font appel aux préjugés sexistes ou homophobes. C'est la sensibilité qui est dépréciée parce qu'elle porte sur les animaux, quoi. Nos émotions qui nous manipulent, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette sensibilité qu'on exprime, elle est ridicule, elle est illégitime, et on n'a pas à l'exprimer en fin de compte, quoi. Alors, il y a ce type de moquerie. Il y a aussi tout ce qui passe par la négation de la possibilité du végétarisme. Qu'est-ce que tu manges des cailloux ? Tu vas aller brouter de l'herbe. Mais il y a aussi toutes les moqueries ou affirmations en termes de tu vas avoir des carences ou des ouais ou tous les végétariens sont moribonds grosso modo. En général exprimé d'une façon assez docte ou alors complètement enflé, quoi. Enfin, c'est tu vas perdre tes dents et tes cheveux et qui sont en fait c'est a priori extrêmement déstabilisant parce que on va se voir affirmer le fait que d'une certaine façon on peut pas exister. Et ça, de façon, a priori, enfin, les gens semblent sincères, évidemment, quand ils affirment ça. Alors qu'ils nous ont face à eux, en chair et en os, en général relativement bien portants. Et c'est quand même assez étonnant, cette possibilité de se voir affirmer en face à face qu'on n'existe pas, en fait, d'une certaine façon. Et, en soi, c'est d'une certaine façon un mode qui est utilisé sous d'autres formes de nous dire qu'on va pas accepter la discussion avec nous et qu'on est prêt à nous dire n'importe quoi. Mais c'est aussi, je pense, d'une certaine façon, cette négation de notre existence, c'est d'une certaine façon l'affirmation déguisée qu'on n'a pas droit à l'existence, qu'on n'a pas à exister, quoi. Ou c'est la formulation du souhait, en tout cas, de la part de nos interlocuteurs, qu'on n'existe pas, quoi, une sorte de volonté de nous voir disparaître. Ça se joue aussi. On avait repris Ben non, mais c'est vrai que je suis un peu long là. Ouais. Bon, non, alors je vais pas passer sur des exemples. Donc il y a ce genre de choses. Il y a toutes les moqueries aussi qui concernent le bon goût de la viande. C'est bon ça, et hop, on nous passe. Le plat sous le nez exprès ou des trucs comme ça, c'est à la fois de la provocation, une sorte d'intimidation et à la fois essayer de marquer le fait que non, la viande c'est tellement bon qu'il ne saurait pas être question d'y renoncer. Mais ça joue du coup facilement un rôle sous prétexte humoristique d'intimidation en fait. Il y a toutes les moqueries qui visent à dévaloriser notre éthique. Il y a toutes les objections absurdes aussi, c'est-à-dire en fait le fait que quand on commence à dire qu'on est végétarien par rapport aux animaux, on va se heurter à toute une batterie, un argumentaire qui en fait ne tient pas la route, qui est complètement crétin. Ça va de t'entends le prix de la carotte ou Enfin, il y en a des mille et des cents, où le lion mange bien la gazelle, qui est un argument crétin au sens où c'est un argument que les gens n'utiliseraient absolument pas sur n'importe quel autre sujet, quoi. Et ces arguments crétins ou ces objections absurdes sont en fait encore une façon de nous signifier qu'on ne souhaite pas engager un débat sérieux sur cette question-là, qu'il ne s'agit pas de toute façon d'une question sérieuse et qui n'est pas respectable, etc. Et c'est une façon de nous signifier d'une façon relativement violente. C'est une injonction à nous taire, quoi. Une injonction à nous taire. Ça ne veut pas être bien français comme je le formule, mais enfin, on nous enjoint de nous taire. Et c'est une façon de nous ramener au silence, quoi. Donc ça, c'est le registre des moqueries. Ensuite, il y a tout le registre du déni, alors qui rejoint un petit peu, bah, par exemple, quand on va nier l'existence, la possibilité d'existence des végétariens, quand on va nier aussi nos motivations. Un exemple qu'on a pris là, c'était quand moi, j'avais envoyé par internet le communiqué ça devait être une journée mondiale pour l'abolition de la viande. Donc, c'était un communiqué qui parlait des raisons pour lesquelles on était pour l'abolition de la viande. Et il y a un journaliste qui a répondu de façon assez insultante, et en terminant par moi j'aime pas les betteraves, et alors je suis pas pour en interdire la consommation. Ce qui était une façon de ramener tout un argumentaire qui était de type éthique à une question de goût dont on ne discute pas, comme chacun sait, et qui est de l'ordre de la liberté de chacun. Bon, ben, c'est assez typique du type de déni en fait auquel on a à faire face. C'est-à-dire qu'on va exposer des arguments, notamment des arguments de type éthique, qui vont se voir nier, oublier, invisibiliser ou carrément... Enfin, là, ce qu'il fait lui, c'est qu'en fait, il répond à côté de la plaque, quoi. Mais il y a aussi toute la dénégation sur le fait que les végétariens existent, j'en ai parlé, mais ça va être parler des végétariens comme des sortes de théoriciens, alors que c'est une pratique, le végétarisme, etc., etc., quoi. Ensuite, il y a d'autres types de mise à l'écart de ce qu'on peut dire au niveau moral, à travers notamment le relativisme, qui est c'est-à-dire que si on parle de violation de droits de l'homme, par exemple, les gens vont pas nous dire « Ah oui, non, mais bon, là, tu parles d'une éthique particulière, les droits de l'homme, mais bon, il y a l'éthique de Hitler aussi, qui est tout aussi valable. Il faut pas, tu peux pas quand même affirmer les choses comme ça, etc. » Alors, quand on parle sur la question animale, clairement, les gens vont mettre en avant le fait que là, nous, c'est ce qu'on pense, mais qu'eux, ils pensent pas pareil. Ils vont évidemment pas argumenter sur le fond, c'est-à-dire pourquoi ils pensent pas pareil et sur quoi ils fondent ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, ils vont avancer, en général, sous une forme qui peut être relativement violente et détournée aussi, mais le fait que, bon, nous, on pense qu'on veut, eux, ils pensent qu'ils veulent. Ensuite, c'est à nous d'être tolérants et de pas trop la ramener, quoi. Oui, voilà, rapidement. Du coup, là, j'ai fait extrêmement rapide, peut-être, sur la fin.
C'est tout ?
Oui. Mais c'était un petit peu les moyens qu'on avait listés par lesquels s'exprime la végétophobie ambiante et à laquelle on est confronté quotidiennement, quoi.
Donc, qui va parler des moqueries ? Moi, j'ai parlé de la discrimination médicale. Donc, comme dans les conversations qu'on a avec nos amis, notre famille, nos collègues, on dit souvent qu'effectivement, c'est pas bon pour la santé, on va mourir, etc. Donc après, quand c'est des gens qui connaissent rien, bon ben voilà, ça ne touche pas. Quand c'est des gens qui connaissent rien mais qui sont médecins, c'est un peu plus embêtant. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de témoignages de végétariens en fait qui se heurtent à des affirmations comme ça, complètement péremptoires de la part des médecins. Et c'est assez problématique parce que du coup, souvent, on reçoit pas les soins. Pas souvent parce que c'est pas vrai pour une angine, non. Mais ça, pour des choses plus graves, ça peut être embêtant. On peut ne pas recevoir les soins auxquels on a droit. Donc, par exemple, les médecins, ils ont un avis qui est censé être médical et ils sont pas censés avoir un avis sur notre éthique. Et de fait, en fait, ils se permettent très très souvent d'avoir un avis sur notre éthique. Donc, moi, j'avais trouvé une conversation sur internet d'une végétarienne qui est allée chez le médecin. C'était son médecin de famille, donc il la connaissait bien, mais il lui pose la question « Mais pourquoi tu fais ça ?» sous-entendu « Mais pourquoi tu te détruis comme ça ?» Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas une remarque très médicale. Et elle lui explique qu'elle veut pas manger de viande, etc. Et il dit « Mais tu comptes en manger quand ? Jamais !» Et du jambon, t'en manges? Ben non, c'est de la viande, quoi. Et du veau? Non, c'est de la viande. Et du poisson? Non, c'est de la viande. Après, c'était des mangoustes, enfin voilà. Donc déjà, c'est un peu flippant de se faire soigner par un médecin qui ne comprend pas que le veau ou la mangouste, c'est de la viande. Mais oui, mais t'es dans une secte, etc. Mais en plus, c'est vraiment le médecin qui outrepasse complètement son rôle en posant des questions qui n'ont rien de médical. Enfin voilà, puis qui a conclu par mais c'est monastique ce que tu fais, c'est ecclésiastique, donc jugement de valeur totale. Et ce médecin qui était si affolé par le fait qu'apparemment c'était très grave d'être végétarien, bah pourtant il a donné absolument aucun conseil, quoi. Donc aucun vrai conseil, parce qu'après ça aurait pu, bon bah on va supplémenter en tel truc, tu vas manquer de tel truc, mais c'était même pas le cas, quoi. Donc c'était purement gratuit. Alors il a quand même prescrit à la patiente une prise de sang, mais elle en avait déjà fait une le mois d'avant, enfin pour le faire, mais rien d'autre, pas B12, enfin pas de conseil nutritionnel, quoi. Voilà. Donc voilà, puis il y a un autre témoignage qui est celui de David, mais je vais pas le lire parce qu'il est un peu long, mais globalement qui montre, et puis je pense que de toute façon ça c'est un truc qu'on sait à peu près quand même un minimum, quoi, en tant que végétarien, que à part si on tombe vraiment sur des médecins cool, mais que c'est jamais très très qu'en général on nous met assez mal à l'aise par rapport à notre végétarisme. C'est pire quand on est végétalien, je pense. Donc alors ça encore, bon, c'est pas très très grave d'être mal à l'aise chez le médecin. Par contre, si on dit au médecin qu'on est végétarien, un des problèmes, c'est qu'il peut, dire que tous nos problèmes de santé, c'est à cause du végétarisme. Et c'est Sandrine Delorme, dans son livre Le cri de la carotte, je sais pas si vous l'avez lu, où elle parlait de sa mère qui était morte, enfin, elle est morte, hein, d'un cancer.
Elle vient de mourir il y a quelques semaines.
Bon, enfin, elle était malade d'un cancer, en tout cas, quand elle a écrit le livre. Et en fait, ce cancer, elle est persuadée que ce cancer a été dépisté trop tard parce que le médecin imputait tous ses soucis de santé au végétarisme. Donc j'ai pas l'extrait là, mais elle l'explique assez clairement dans le livre. Donc voilà. Donc on peut décider de pas dire au médecin qu'on est végétarien, mais dans ce cas-là, bon, il donne pas tous les éléments non plus pour comprendre et pour nous soigner, quoi. Donc c'est pas non plus un super conseil. Enfin voilà. Donc, et on peut, donc tous les médecins sont pas pénibles, sont pas autoritaires, etc. Mais on peut aussi tomber sur un médecin qui ne prenne pas du tout en compte notre végétarisme ou notre végétalisme. Et dans ce cas, on n'a pas non plus accès à des informations, enfin aux informations nécessaires qui prennent en compte notre état de santé. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de toute façon de se documenter autrement, mais c'est quand même une situation qui est anormale, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui prescrivent systématiquement aux végétaliens de la B12, par exemple, ou des choses comme ça? Oui? Oui.
La pluie de la carotte, elle explique aussi que le premier médecin qu'elle allait voir, il lui a dit qu'à l'école de médecine, ils ont dit que le végétarisme pour les enfants, ça pouvait être une pénale. Il a fait la malgarde avec la malgarde.
Oui, je vais en parler après, ouais. Mais c'est vrai que oui. D'accord. Et voilà, donc ça c'est important parce que face à un médecin, on est quand même une population vulnérable, quoi. C'est pas comme quand on est à table avec sa famille ou des choses comme ça, puisque c'est quand même de son savoir que dépend un minimum notre santé. Et là, la végéphobie, elle atteint facilement ses buts, c'est-à-dire que ça peut nous décourager aussi très rapidement de se dire que bah oui, peut-être que notre végétarisme, il nous fait mourir, quoi, ou il nous rend malade. Voilà, et il y a des végétariens qui ont arrêté d'être végétariens ou qui ont mangé un petit peu de viande parce que leur naturopathe ou leur médecin leur a dit de manger de la viande, quoi. Bah ouais, mais en même temps, voilà, enfin, c'est pas non plus super, quoi, parce qu'on a le droit quand même de se faire soigner si on veut. Oui, d'accord, mais on a le droit aussi d'avoir envie de voir le médecin et d'avoir des médicaments si on veut, et c'est dommage, quoi. Mais effectivement, après, ça, c'est d'autres choix.
Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que on est beaucoup plus malade, genre beaucoup plus dans nos sociétés riches, hein, parce qu'en France, il pourrait faire la différence, de manger de la viande que d'être végétarien.
Oui, peut-être.
Bah, des maladies.
Oui. En tout cas, il y a des maladies pour lesquelles on est moins vulnérable, c'est sûr, oui, mais bon. Donc, mais bon, ça encore, c'est des récits qui se passent dans les cabinets des médecins, c'est encore des relations individuelles, etc. Il y a aussi la politique de santé publique en France qui est complètement hostile au végétarisme, et notamment par le biais du PNNS. Donc le PNNS, c'est le plan national nutrition santé, je crois. Et en fait, c'est le PNNS, ça définit la politique nutritionnelle de l'État. Donc il vise alors à diffuser une information claire, simple et exhaustive. D'accord ? De fait, c'est absolument pas le cas. C'est à destination de la population générale. Et le PNNS, on lit particulièrement à travers le site mangerbouger.fr, qui est obligatoire, vous savez, sur les pubs pour les, pour tout ce qui est nourriture, il y a toujours mangerbouger.fr. Voilà, c'est, il y a la mention obligatoire sur les publicités. Et en fait, quand on va sur le site, le premier conseil, enfin l'unique, pardon, on n'a qu'un de conseil donné à un adolescent désirant être végétalien ou végétalien, je ne sais plus, peut-être végétalien, je crois. Il y a un conseil, c'est ne suis surtout pas ce régime, tu risquerais de graves carences. Voilà, alors les carences, il n'y a rien qui dit tu peux le suivre, mais il faut que tu fasses super attention. Non, ne suis surtout pas ce régime, voilà, et le régime végétalien, il n'évoquait que cette fois-là. Après, il est évoqué, mais sans être nommé, quand on parle de, quand on dit, par exemple, il faut au moins manger, viande, poisson, œuf, une à deux fois par jour. Quand on est végétarien, il est important de remplacer sa source de protéines, par exemple, en consommant des œufs ou des produits laitiers. Donc, ce qui veut dire qu'on peut pas être végétalien. Voilà. Alors, je passe un petit peu, mais on avait envoyé une lettre au PNNS pour leur demander les sources des études, etc. Et ils nous ont répondu, là, il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié quoi. Ils nous ont dit quoi, en fait? Parce qu'on leur a demandé les sources en disant, bah là, vous dites qu'une adolescente végétarienne, elle va manquer de fer. Est-ce que vous avez fait des études entre adolescentes végétariennes et adolescentes non végétariennes pour montrer lesquelles manquaient le plus de fer, etc. On a demandé sur des points précis. Et je me souviens plus exactement ce qu'ils ont répondu, mais ils noyaient un petit peu le poisson quand même.
Le détail, c'est un truc, le texte qui a à peu près une page, et dans ce texte, ça détaille les points du coup. Le premier gros point qui occupe à peu près le tiers de la réponse, c'est d'avoir conclu à la fin, j'ai pas de problème avec les protéines. Alors que quand on dit de. Y compris pour un végétalien, ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent on ne peut pas dire qu'il est impossible d'obtenir. Assez de protéines, si on mange purement végétal. Mais ensuite, ça renvoie sur le calcium. Ça dit calcium, il n'y en a que dans quelques légumes, il dit pas lesquels, et quelques eaux minérales. Il fait l'impasse sur l'existence du lait de soja en calcium, enfin supplémentaire en calcium, qui est aussi riche que le lait. Oui, le lait de soja, les amandes et d'abord, il y a plein de laits différents. Yaourt au soja aussi, qui est aussi riche que le lait de vache en calcium. Donc, absence d'information pour conclure qu'il est absolument nécessaire de voir du lait. Pour la B12, par exemple, il fait l'impasse sur la possibilité de se supplémenter en B12. Il dit simplement les végétariens. De manière générale, il compare les taux, par exemple, de B12 chez les végétariens et les végétaliens à celui chez les gens qui mangent la viande. Mais on est en train de parler de végétariens et végétaliens qui n'ont reçu aucune information nutritionnelle de la part de l'État sur ce sujet. Et ils n'ont pas l'air de vouloir en donner. Sur le fer, par exemple, on avait demandé explicitement quelles sont vos sources pour dire que les personnes végétariennes sont plus carencées en fer, en particulier les végétaliennes, parce qu'on parle souvent des femmes à propos, sont plus carencées en fer que les personnes qui mangent la viande. Il n'y a aucune réponse là-dessus. Il y a seulement une réponse qui dit qu'on trouve surtout que beaucoup de personnes végétariennes sont carencées en fer. Beaucoup, mais est-ce que c'est plus que la population générale? Alors on sait très bien que d'après leurs propres chiffres, quelque chose comme la moitié de la population générale est carencée en fer. Donc c'est sensibilité sur c'est très faible comme réponse. Il y a une réponse, mais enfin elle est plus claire de A à Z.
C'est pour des
Oui, non, mais bon, c'est pour en conclure, mais
des intérêts à la
voie. Oui, bien sûr, oui. Pierre, tu voulais réagir? Tu voulais dire quelque chose?
C'est pour généraliser. Il y a des discours, par exemple, on peut dire 20% des végétariennes manquent de fer. Mais en fait, 20% des omnivores aussi.
Oui. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait les sources des études, oui.
Le régime végétarien peut être équilibré à condition de faire attention.
Oui, bah comme. Oui.
Le régime italien.
Voilà.
J'ai ici le texte.
D'accord. Bon, on va peut-être pas le lire s'il fait 8 pages.
Non, c'est une page, c'est peut-être pas intéressant de lire, mais je peux montrer qui veut.
Ok. Voilà, enfin, pour dire que tout le guide Manger Bouger, c'est pareil, et c'est à chaque fois, ils disent qu'ils diffusent une information claire, exhaustive, et je ne sais plus quel était le troisième adjectif, alors que c'est du genre, le suivi d'un régime végétalien à long terme peut faire courir des risques sur la santé, pour la santé, notamment pour les enfants, et il n'y a aucun conseil, quoi. Donc, ils disent, enfin, je sais pas, voilà, ils disent pas, bah voilà, il faut, donc pour ne pas courir ces risques, il faut faire ça, non. Alors que si on regarde le guide PNNS, par exemple, belge, il est beaucoup plus, enfin, il est pas complet, mais en tout cas, il y a un ton assez différent. Alors, je vous lis le guide pour les adolescentes. Tu es végétarienne? Pas de problème. Une alimentation sans viande est entièrement compatible avec une alimentation équilibrée. Tu dois juste veiller à des apports suffisants en fer et en vitamine B12, deux nutriments abondants dans la viande. Aussi, veille à associer les bons aliments dans tes menus. Voilà. Donc, c'est pas exactement le même ton quand même, quoi. Voilà. Et, donc ça, c'est le PNNS, et je vais y passer très rapidement, parce qu'on va en parler cet après-midi, mais l'histoire de la loi française contre le végétarisme, c'est le fait que les végétariens déjà connaissent des grandes difficultés, enfin des difficultés en tout cas sociales pour pouvoir manger à la cantine ou des choses comme ça, et ça risque de s'aggraver, même si on a l'impression que ça peut pas devenir plus chiant, dans les années à venir, parce qu'il y a des articles de loi qui sont sortis concernant les services de restauration publique. Et en fait, ces articles de loi, même si les décrets ne sont pas encore sortis, ils indiquent qu'il sera bientôt impossible de manger végétarien dans les collectivités. Donc il ne sera pas impossible de manger végétarien une fois de temps en temps. Par exemple, la campagne Lundi VG, je pense qu'elle pourra très bien s'inscrire dans ce cadre. Par contre, c'est sûr qu'on ne pourra pas manger végétarien tous les jours et qu'on ne pourra jamais y manger végétalien de toute façon. Donc c'est pas grave parce que nous on est peut-être pas obligé d'aller à la cantine, voilà. Mais bon, pour les enfants par exemple, pour les prisonniers, dans les hôpitaux, etc. C'est des articles de loi qui doivent être suivis par tous les services publics de restauration. Voilà. Je passe ça parce qu'on en parle cet après-midi, non?
Oui. C'est un peu long en plus. C'est vraiment un truc important, ça.
Voilà. Juste pour dire, le seul truc que je vais dire dessus, c'est qu'en fait, cet article de loi, il se base sur des recommandations. Du groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, qui lui-même se base sur le site Manger Bouger, qui vient du PNNS, en fait, du Plan National Nutrition Santé. Donc tout vient du PNNS, qui est pas très très, comme on l'a vu, qui a une position qui est quand même pas vraiment défendable, en fait. Hein.
Le PNNS qui, du coup, joue un rôle clé dans cette histoire.
Ouais, ouais, complètement. Donc on a un beau schéma, voilà, mais je pense que...
Ça représente combien de personnes du PNNS?
On sait pas.
Impossible de le savoir.
Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de directeur du PNNS.
Si, il y a un directeur.
Le mec qui nous a répondu.
Ah, c'est le directeur?
Dans le PNNS. Ouais. Dans le PNNS, vous avez répondu la première fois.
Ou en disant que ce n'était pas eux qu'il fallait s'adresser.
C'est l'ANSES, l'ex-AFSA. Et l'AFSA, c'est le directeur de l'ANSES. C'est le directeur des risques, ou un truc comme ça.
L'ANSET. Bah, je sais pas ce que ça veut dire.
L'ANSET.
Voilà, mais je sais pas ce que ça veut dire quand même.
Bon, de toute façon, ça fait partie des trucs qu'on pourra discuter cet après-midi, parce qu'on va avoir vraiment une discussion spécifique sur ce truc-là, qui est un truc énorme.
Bon, je continue sur les parents végétariens, et là, donc, je vais revenir sur l'histoire de ce dont tu parlais, Flavien. Donc, sachant que pour, les familles, elles sont quand même premières victimes de discrimination, parce que quand on est responsable d'un enfant, quand nous on prend la décision d'être végétarien, bah ça implique que nous. Après, le prétexte de protection de l'enfance permet quand même de s'immiscer un petit peu dans la vie des familles, dans la vie pratique, et du coup, c'est difficile aussi d'élever des enfants végétariens. Donc il y a le fait divers dont tu parlais, vous connaissez tous, avec le bébé végétalien, entre guillemets, qui était mort faute de soins, de malnutrition. Donc c'était un bébé qui était végétalien, en fait c'était un bébé qui était allaité, quoi. Donc qui était déjà à la base même pas végétalien, mais qui était allaité, mais exclusivement allaité. Voilà, c'est les parents qui étaient végétaliens. Et en fait, le fait que les parents sont végétaliens, c'était le truc vraiment qu'on a retenu de ces parents-là, quoi. Donc apparemment... Il y avait pas vraiment... l'enfant souffrait de carences alimentaires dues à l'allaitement exclusif et à défaut de soins. Et en fait, j'ai fait une analyse d'un article qui montre que il y a plein de trucs qui est faible. Enfin, il y a, c'est pas mensonger, c'est pas clairement mensonger, mais c'est quelque chose un peu manipulateur, parce que on va bien dire que les parents, ils étaient pas tout à fait normaux, parce qu'ils avaient pas scolarisé leur enfant, parce qu'ils avaient, ils travaillaient dans un magasin bio, parce qu'elle avait accouché à la maison, etc. Et parce que le fait qu'ils soient végétaliens, ça allait bien là-dedans, quoi, en fait. Et comme si c'était pas des gens ordinaires en fait, les végétaliens, c'est des gens forcément qui sont complètement en marge, enfin qui sont excentriques on va dire, ils sont excentriques, on va pas dire marginaux, mais voilà. Donc fallait absolument mettre dans le titre de l'article que les parents étaient végétaliens, et en même temps, je vais...
Oui, le fait que, c'est un truc qui revient très souvent, le fait que les végétariens ou les végétaliens sont anormaux en fait, enfin sont marginaux, sont en dehors des normes sociales, tout ça. Ce qui permet aussi de psychologiser notre végétarisme, notre végétalisme.
Et de le dépolitiser.
Ouais. C'est parce que on a des sortes de problèmes sociaux, des problèmes psychologiques globaux, quoi, que ça entraîne, entre autres anormalités, le végétarisme.
Je voulais dire, tu avais beaucoup insisté sur l'indépendance entre le politique et le psychologique pour un bien, et je pense que tu travailles par exemple, l'homophobie, c'est le problème aussi, c'est qu'on est fragilisé, donc on va pas bien. Et donc l'accent est mis là-dessus, je pense que maintenant je vous dis la même chose avec la vie, avec la vie, et il y a un lien très direct, c'est-à-dire que c'est là j'ai phobie, là j'ai phobie, puis nous entendons des troubles personnels, oui c'est politique, mais il y a vraiment un lien très direct entre les deux.
D'accord.
Les autres disent c'est parce que vous n'avez pas bien, vous êtes attaqué, vous dites c'est parce que vous n'avez pas bien.
Donc par rapport à cette histoire de parents végétaliens, donc il y a quand même un côté assez pervers parce qu'on a reproché donc à cette famille en l'occurrence, mais à d'autres, de pas consulter de médecins traditionnels, allopathes, etc., et de se tourner vers des médecines parallèles, parce que je sais pas s'ils étaient pas kinésiologues, ou enfin en tout cas ils ont pas voulu faire consulter pour leur fille, quoi, ça c'est sûr. Or, la plupart des médecins conventionnels sont pas capables de toute façon de nous conseiller sur le végétarisme. Et donc, ou diabolise carrément le végétarisme. Donc, voilà, c'est un peu contradictoire quand même. Et il y a un témoignage aussi dans la brochure de Sandy, que vous connaissez peut-être, qui a vraiment été accusé de maltraitance de la part de l'assistance, de son assistante maternelle et après de la crèche, etc. Donc, qui a vraiment été embêté par rapport à son enfant, qui était végétalien, je crois. Donc elle disait, j'étais convoquée tous les 4 matins à son sujet, tout ce qu'il faisait ou ne faisait pas était forcément lié à la maman complètement détraquée et hors d'un système social normal. La bosse sur le front de mon fils était matière à soupçon bien plus que celle de tout autre enfant. Une maladie chez mon fils était plus bizarre que chez tout autre enfant. Les caprices de mon fils étaient plus alarmants que chez tout autre enfant, etc. Et bon, donc après, bam, signalement d'éducation nationale pour enfants en danger ou dans le cas de le devenir. Tout ça parce qu'elle avait demandé à la cantine si elle pouvait emmener des petits pots bio et végétaliens et qu'elle n'avait pas voulu faire croire que son fils était allergique, en fait. Donc elle voulait pas mentir et en fait, elle a vraiment galéré pendant quelques années. Et il y a un étudiant en droit qui a travaillé sur les discriminations émanant de l'administration envers les végétariens. Donc il a travaillé dans des écoles et dans des prisons. Et quelque part dans son mémoire, quand il parle des agissements des établissements scolaires face aux parents végétariens, il fait le lien entre végétarisme et maltraitance. En général, il souligne le fait que pour un directeur d'école ou un principal de collège, un parent végétalien, ça va quand même lui donner des soupçons de maltraitance. Donc je vous lis juste les quelques lignes. Dans les cas que j'ai eu à traiter qui n'ont concerné que des enfants scolarisés en école maternelle et primaire, il m'est apparu que les chefs d'établissement étaient à la fois peu instruits à propos du végétarisme et peu ouverts sur la question. En effet, dans les 3-4 conflits entre parents d'enfants végétariens et établissements scolaires qui m'ont été confiés, chacune des mères en question a été considérée de manière plus ou moins explicite comme un parent maltraitant. Voilà. Ça, plus d'autres histoires de gens de couples qui divorcent avec un végétarien, un pas végétarien, et que le parent non végétarien fait valoir le végétarisme de son ex auprès du juge pour dire il est pas normal, il élève mal notre enfant, etc.
Y compris quand il est végétarien lui-même.
Oui, parce que oui, dans l'histoire, c'est vrai qu'il était végétarien, mais bon. Fin...
Oui, mais ça l'empêche pas d'utiliser la végétophobie pour essayer d'avoir la garde d'enfant.
C'est parce que ça fonctionne en même temps, donc c'est pour ça, quoi. Donc c'est un peu voilà. Donc la Donc en gros, si on veut continuer à jouir des droits dont tout le monde jouit, faut essayer de rentrer un minimum dans le rang et de pas trop crier sur les toits qu'on est végétarien, surtout quand on est parent, quoi. C'est à toi. Oui.
Il y avait un, dans cette histoire de divorce, moi je me rappelle, un truc à charge, c'était la copie d'une page Facebook où elle...
Elle disait qu'elle était... c'était un événement Facebook, pique-nique végétarien à tel parc, et il avait fait la copie d'écran, il l'avait versé au dossier, quoi. Voilà, donc ça, c'était petit quand même. Hein.
Non, mais c'est surtout que c'était un élément à charge, quoi, dans les pièces du divorce. Enfin bon, ouais.
C'est à toi. Marmulation et stigmatisation.
Eh bien, sinon, un autre truc qu'on a à peine abordé, c'était les tentatives du gouvernement français pour assimiler végétalisme, éventuellement végétarisme, mais surtout végétalisme, à une pratique sectaire ou une pratique, je sais plus comment ils disent, mais enfin, grosso modo, pouvant mener à des dérives sectaires. Et donc ça apparaît dans divers documents, ça apparaît notamment dans le rapport de la Miviludes. La MIVILUD, c'est la mission interministérielle d'études des sectes ou des dérives sectaires. De vigilance, ouais, de lutte contre les sectes et les dérives sectaires. De façon générale, la MIVILUD, c'est quand même saloperie, c'est dénoncé par plein de... d'organismes divers qui sont assimilés à des sectes et qui apprécient pas. Mais aussi, je crois que c'est la rapporteuse aux droits de l'homme de l'ONU, je sais pas quoi, qui a mis en garde la France contre les dérives, non pas sectaires, mais gouvernementales vis-à-vis des sectes. Enfin, grosso modo, le gouvernement a tendance à assimiler à tour de bras tout ce qui lui convient pas, tout ce qui est s'écarte un petit peu des normes sociales les plus en vue, pour comme les dénoncer comme sectaires et en fait faire une sorte de créer une sorte de méfiance ou même d'animosité sociale à l'encontre de ces mouvements-là. Mais bon, là, dans le cas qui nous occupe, c'est le rapport de la Miviludes parle vraiment clairement du végétalisme comme quoi d'ailleurs, en tout cas, un symptôme de dérive sectaire.
Ouais, il affaiblit physiquement, il rend difficile l'interaction sociale avec d'autres personnes extérieures au mouvement. Bah oui, ça va être notre faute bientôt.
Voilà. Mais du coup, l'ensemble de ces, entre le parti pris gouvernemental avec le PNNS pour nier la possibilité au niveau diététique, médical, d'une alimentation végétalienne, voire végétarienne correcte. Les politiques qui sont menées, qui sont peut-être pas des politiques d'ensemble, mais en tout cas qui sont reprises à la base assez largement par le personnel du contrôle social pour assimiler grosso modo le végétarisme, le végétalisme des enfants à une maltraitance, et celui des parents à une conduite irresponsable. Et puis cette histoire d'assimilation donc à des dérives sectaires, etc. Ça forme une sorte d'ensemble, une sorte de politique d'ensemble de la part de l'État français, quoi, qui est vraiment une politique visant à marginaliser, à décrédibiliser, voire à réprimer en fait le refus de manger des animaux, quoi. Et donc ça va s'ancrer dans des lois qui seront bien pires, c'est-à-dire qu'ils le rendront impossible dans les cantines de travail, des écoles, des prisons, etc. Quoi. Voilà.
Donc on va aborder juste la dernière partie, qui est j'espère la plus intéressante, sur les réactions qu'on a face à la végéphobie, c'est-à-dire comment on réagit par rapport à ça. Donc voilà, on a essayé d'évaluer ça, sachant que c'est pas très... Arrête. Sachant que c'est pas forcément très facile, mais globalement, en général, la végéphobie, alors je rappelle que le but, c'est d'essayer de nous taire, c'est d'essayer de nous faire taire, pas juste pour le simple but de nous faire taire, mais c'est d'éviter toute remise en question du spécisme. Donc, parce que, évidemment, un débat d'idées honnêtes, ça montrerait le fait qu'il est injustifiable d'exploiter les animaux comme on le fait aujourd'hui, et particulièrement la pratique spéciste centrale qui est la consommation de viande, hein. Donc, en général, eh ben, elle atteint ses buts parce que, c'est vrai que souvent, on se tait, ou alors on se tait pas, mais en tout cas on essaye d'esquiver un petit peu, on essaye d'adoucir le discours, on essaye de... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas librement nous-mêmes et qu'on est tous imprégnés de ça finalement et que ça influence notre pratique personnelle et militante. Donc, par exemple, on peut se taire quand nos collègues font leur énième blague lourde, et ben oui, ça peut nous arriver de nous taire. On peut donner de la viande à notre enfant parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous embête. On peut aussi éviter de pas avoir envie d'aller faire une table de presse ou quelque chose comme ça parce que bah voilà, on n'a pas envie d'assumer publiquement le fait qu'on est solidaire des animaux. Ou on peut aussi éviter de polémiquer en disant qu'on est végétarien pour par goût ou voilà, pour des choses comme ça.
Mais puis même au-delà de ça, il y a des gens qui renoncent à refuser de manger des animaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était la suite de mon... Merci de ta participation. Donc on peut effectivement arrêter, et on peut tout simplement, et c'est grave, donc justement renoncer à arrêter de manger les animaux. Voilà, donc c'est végétarien, ça pourrait être nous dans d'autres circonstances, hein. Et voilà, donc enfin, je pense qu'on est tous capables de céder, enfin, tous susceptibles de céder un jour à la pression sociale qui est assez forte et à cesser de lutter contre l'exploitation des animaux. Or, le problème, c'est que, bah, les animaux, malheureusement, ils peuvent pas, enfin, en tout cas, c'est difficile de penser qu'ils peuvent se libérer eux-mêmes, peut-être que ça se discute. Et que, je pense qu'on serait d'une grande aide pour leur libération, donc, c'est important qu'on soit dans cette lutte-là, quoi. Il y a aussi le fait que la végéphobie, elle n'est pas perçue, ou en tout cas elle est niée, que l'idée de végéphobie, c'est quelque chose qui déplaît quand même aussi à beaucoup de gens. Enfin, ça déplaît parce que, voilà, des gens pensent que c'est pas ça, ou que eux n'ont jamais été confrontés à des attitudes végéphobes. Et donc, par exemple, les végétariens, ils disent quoi pour le végétarien?
Ah oui. Non mais pas. On a essayé de lister enfin tout un tas d'impacts que ça a sur nous et notamment il y avait le fait que énormément de végétariens essayent de montrer patte blanche et ça peut se traduire sur ce qu'on a appelé le fait de vouloir être une vitrine du végétarisme, c'est-à-dire d'être impeccable, de pas montrer de failles, de pas avoir de défauts, etc. Quoi. Ce qu'on souligne, c'est que, enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est extrêmement souvent ça. Mais ce qu'on souligne, c'est qu'il n'y a pas d'autres mouvements politiques où les gens essayent de montrer patte blanche à ce point-là, quoi. C'est-à-dire, les syndicalistes, s'ils ont un gros ventre, c'est pas gênant, quoi. S'ils sont habillés, à la va comme je te pousse, c'est pas gênant, enfin, etc., quoi. Alors que, il y a sans cesse, de la part des personnes végétariennes elles-mêmes, une sorte de volonté d'être propre sur soi, de pas dire un mot de travers, de surveiller, d'être sportif ou que sais-je, etc. quoi.
Je pense que dans plein de groupes militants, il y a toujours une part qui essaie de bien être intégrée à la société, montrer qu'on est clean et qu'on peut suivre d'autres exemples. Je pense au féminisme des S30, où les femmes ont rejeté quand même pas mal. Celles qui n'étaient pas tout à fait clean, comme il aurait fallu, on s'est rejeté les lesbiennes, pour montrer que, voilà, je suis assise de grosses femmes, je pense que ça, pour voir aussi.
Ouais, t'as pas de raison.
Même actuellement, dans le milieu sexuel, il y a un rejet par exemple des trolls ou des galéneuses, parce que ça donne une imagerie qui est mauvaise.
C'est fou, hein, quand même.
Il y a énormément de parler avec les homophobies. Il y a un type qui a écrit un livre sur les homosexuels incontaminés qui faisaient être parfaits par exemple. Un gentil, serviable, un garçon parfait. Il y a une petite astuce qui pourrait être faite aussi. Surtout qu'on nous pousse à être impeccable parce que si jamais on nous surveille, moi,
c'est bien, ouais.
Non, mais sur les lettres, parce que si on a la main, on met la main en porte, c'est la preuve que voilà, c'est pas possible.
Ce que je veux dire.
Et j'ai l'impression qu'en tant que végétarien, il y a un premier ami à faire aussi. Moi, j'ai dû faire, qui est très difficile, qui se répète en permanence. Et je sais pas, moi, je suis un peu nouvelle là, enfin, du coup, je sais pas si vous avez déjà eu une idée, parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Et l'idée, moi, que j'ai souvent, c'est qu'on pourrait faire des ateliers à la répartie. C'est-à-dire, on se raconte un peu ce qu'on a vécu, et puis en général, c'est pas vous, mais moi, après, je me dis, non, je serais bien pour ça, c'est tellement bien. Alors que sur place, je me suis décomposée, on réfléchit bien, c'est tout le monde. Donc on aurait 2-3 plus répartis comme ça, tout de près, ce serait pas facile. On pourrait faire des jeux de rôle. On pourrait faire des petits jeux de rôle, ce serait pas facile pour nous d'imiter.
Des groupes d'autodéfense, quoi.
Et voilà. Et à mon avis, ça serait bien, parce que vous voyez, ça tourne trop autour des mêmes. Il y a 3 personnes qui sont parties à un bar.
Puis à chaque fois, ils ont l'impression de faire une remarque super originale, quoi. Et attends, et le prix de la carotte, hein.
Et puis de la mauvaise santé, parce que c'est quand même assez incroyable, quoi. Les gens crèvent de viande. C'est évident que médicalement, je ne sais pas s'il y a des médecins végétariens ou végétaliens, mais
il y a
vraiment une grosse pub à faire.
Ils essayent, enfin ils essayent.
Le cancer et les maladies
de cœur, ça arrive à celui-là. Je voudrais vraiment mettre en cause la viande, le lait, tout ça, peut-être. Je parlais de groupe d'autodéfense, mais pas ça m'a immédiatement fait penser à ça. Parce que dans les groupes d'autodéfense, par exemple les groupes d'autodéfense femmes, une grosse partie du travail, c'est un travail psychologique de reprendre confiance en soi, notamment dans les rapports de genre, mais de façon générale. Et c'est quelque chose qui aurait à faire. Enfin, on y reviendra, mais un des effets fondamentaux de cette sorte de harcèlement moral dont on est victime en tant que végétarien, c'est le fait de perdre une confiance en soi par rapport à nos propres arguments, à notre capacité aussi à formuler, à être clair, à convaincre, etc. Et même par rapport au fait même d'avoir raison. Et là, sur ces histoires, moi je parlais de vitrine, mais c'est le fait que on cherche toujours la faille. C'est ce que tu disais, hein, par exemple sur notre régime, mais sur nos arguments, sur comment on a été habillé ou n'importe quoi, on va chercher la faille en fait pour nous déstabiliser et nous décrédibiliser. Et en fait, on intègre ces failles-là comme des sortes de défauts, et on va intégrer sous cette forme-là la pression sociale. On va intégrer le fait qu'il faut être irréprochable, quoi. C'est-à-dire, les failles que les autres nous cherchent, on les intègre comme des défauts qu'il faut qu'on évite ou qu'on a, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, mes parents étaient végétariens dans les années 50, donc j'ai vécu exactement. Je mange pas bien, comment ça se fait? Alors, dès le mois de gros, je suis bien bizarre. Donc, du coup, j'ai toujours du mal à parler, à prendre la parole. Alors, moi, je vais dire que j'étais plus dans les groupes, donc c'est sûr que je suis catalogué.
Ouais.
Non, puis en plus, pendant ces temps-là, quand on est en train de pinailler sur des trucs comme ça, ben on parle pas des animaux, quoi.
Mais c'était en fait, en plus, hein, j'avais jamais pensé à cet argument-là, donc j'étais jamais pensé à cet
argument-là.
Bon, continue. Et c'est cette... Ah ouais.
je croyais que tu voulais savoir si vous voulez utiliser le ketchup dès la cuisine, je comprenais pas pourquoi tu me demandais. Ah oui, mais c'est pareil pour le coca, c'est pareil, oui, mais de toute façon, il faut trouver la faille, puis nous, on est bien con aussi, parce qu'on s'engouffre complètement dedans, ah mais non, mais dans le ketchup, alors que bon, en soi, on s'en fout et la personne s'en fout, quoi. Donc, c'est con, voilà. C'est beaucoup de gros mots, quand même, mais... Donc, Yves ?
Oui.
T'avais commencé.
Oui, ça serait bien.
Un quoi ?
Du théâtre forum. Faire du théâtre forum.
D'accord, mais on finit façon... quand même le truc.
Oui, on finit quand même. Et donc on a lissé aussi pas mal de conséquences que ça a. On est obligé de faire des analyses parce que on pense qu'une grande partie des conséquences qu'a la pression sociale sur nous sont des conséquences qui sont pas conscientes en fait. Donc évidemment, ça nous oblige un petit peu si on veut aller dans cette direction-là, à se livrer à des interprétations et des interpolations des comportements. Et donc bon, c'est sujet à critique ce qu'on peut dire sur ces questions-là, quoi. Mais aussi, par exemple, quelque chose qu'on a pointé, c'est le refus de la part des végétariens de considérer qu'ils sont victimes d'une pression spécifique, ce qu'on appelle donc la végéphobie. C'est le refus de se considérer, qui apparaît comme un refus de se considérer comme victime. Ça, c'est vraiment une réaction qu'on a fréquemment, c'est dire mais bon, c'est histoire de végéphobie, c'est se poser en victime. Moi, j'ai aucune envie de me poser en victime. S'il y a des gens qui me traitent mal, et ben voilà, je cesse de les fréquenter, etc., etc. Ce genre de réaction.
Parce que nous aussi, on veut être des sauveurs, on veut être ceux qui aident les animaux, etc. Et c'est un peu plus valorisant qu'effectivement être victime de discrimination.
Oui. Ben voilà, ça c'est une interprétation, mais que je suis d'accord avec cette interprétation, mais du coup c'est une interprétation qu'on peut faire de ce type de réaction. Mais en tout cas des réactions comme ça, où quelqu'un va dire « moi je refuse d'être une victime, si on me traite mal, ben je m'en vais, ou je coupe avec mes amis et tout ça », c'est une sorte de discours où à la fois il y a une sorte de négation du fait que les végétariens seraient victimes d'une pression spécifique, et où à la fois ensuite elle est reconnue cette pression spécifique. Si mes amis me traitent mal, je m'en vais. Mais où du coup là la personne elle dit mais moi je vais pas me laisser enfermer dans le rôle de victime, je réagis et je m'en sors, quoi, grosso modo. Mais et qui nie quand même le fait que les conséquences, quoi qu'il fasse, sont des conséquences négatives. C'est-à-dire que même s'il s'en sort, il coupe avec ses amis, par exemple. C'est-à-dire que nous on n'a jamais dit que le fait qu'on soit victime d'une pression sociale spécifique, ça faisait de nous des êtres passifs, soumis à la violence des autres et qui savent pas réagir ni rien. C'est pas ça le problème. C'est le problème de pointer du doigt l'existence de cette pression spécifique et du fait qu'elle a des conséquences réelles, quoi. Aussi.
J'ai jamais dit que j'étais végétalienne, j'ai dit je ne mange pas de viande. Bon, le lendemain j'étais dans mon appartement, on a tout reparlé, et à la fin de ce mois d'essai, j'avais eu le contrat de mon travail, et l'argument qu'il a trouvé, ce patron, était voilà, j'ai arrivé au bout de la fin de l'essai, j'ai fait le temps de mon travail, de la viande, et par contre, je ne peux pas garder mon entreprise parce que vous êtes végétarienne. J'étais végétalienne, il ne le savait même pas. En fait, on ressort ça au bout d'un mois. Et alors, comme elle m'a dit, je ne peux pas appeler, vous êtes végétarienne, il a été prouvé que les végétariens n'ont rien dans la tête. Donc, je vous promets. Et donc, je ne peux pas regarder dans la tête.
Non mais là faut appeler les prud'hommes, hein. c'est faut appeler les prud'hommes ou...
Par exemple, j'étais dans un état parce que j'avais tout quitté à Montbéliard, et en fait j'étais convaincue de rester sur le vélo. Bon, j'avais que mon sac, mon chat, et ben voilà, j'étais livrée à moi-même. Donc qu'est-ce qu'on a du recours?
Je propose qu'on parle de ce genre de choses après, lors du débat. Comme ça on continue, on a bientôt fini de toute façon. Mais ouais, ça vaut le coup d'en discuter. Ah, voilà.
Ouais, parce qu'après, ça, tu savais où t'en étais, c'est bon ?
Oui. Ben là, pour continuer, moi, sur le fil de ce que je disais, c'est que sur ce refus de se considérer comme victime, ce refus de se considérer comme victime, avec l'idée donc qu'être victime d'une pression quelconque ou d'un comportement social quelconque, ce serait quelque chose de honteux, ce qui en soi est critiquable. Enfin, je pense qu'il y a vraiment à lutter, mais c'est quelque chose qui est généralisé dans notre société. C'est-à-dire que si on est victime d'un abus quelconque, abus sexuel, abus de pouvoir, etc., etc., la honte rejaillit sur la victime. Et je pense que c'est quelque chose qui se joue aussi dans cette histoire de refus d'être victime de la pression VG-phobe, etc., quoi. Mais ça entraîne notamment une absence de solidarité avec les personnes qui sont avec les autres végétariens, quoi. Hein ?
Donc je vais parler, parce que je vais parler de ça.
Ah bon ? Ah oui, juste.
Non, mais c'est tout. Après, c'est pas grave. C'est juste que du coup, entre végétariens, on n'est pas très solidaires. On sous-estime un petit peu la végéphobie et les conséquences qu'elles entraînent. Et quand il y a des végétariens, bah, comme l'histoire des parents végétariens, par exemple, enfin végétaliens, qui ont été accusés d'avoir fait mourir à leur enfant, bah, après, j'ai pas dit qu'il fallait être solidaire d'eux, etc. Mais bon, quand les gens nous en parlent, oui, mais eux, c'était des végétaliens bizarres, blablabla, blablabla. Et dans l'adversité, au lieu d'être solidaire, justement, on se désolidarise, on se démarque, alors que dans d'autres circonstances, nous aussi, on peut être des victimes. Enfin, je veux dire, si on n'était pas dans une position socialement facile ou etc. Enfin, on pourrait aussi subir des pressions qui sont beaucoup plus lourdes que celles qu'on subit aujourd'hui, quoi. Et il faut quand même qu'on souligne que cette pression, c'est pas une question personnelle qui dépend de notre habileté sociale, etc. C'est vraiment quelque chose qui est lié à ce qu'on défend et qui devrait nous, enfin, à laquelle on devrait faire face aussi, même si nous, on se sent pas victime personnellement, quoi. Voilà. Je sais pas si j'étais très claire. Si, d'accord. Voilà, donc Yves va dire ce qu'il avait oublié de dire.
Qu'est-ce que j'ai oublié de dire,
oulala. Je l'ai écrit en gros, en bleu sur ta feuille.
Ah oui. Oulala, mais je sais pas comment amener ça, moi.
Mais si, parce que c'était la suite de, bon, la vitrine. Non, mais bon, c'est pas grave, sinon, c'est pas grave.
Ah oui, d'accord.
Je crois qu'on va finir, en fait. Bon, c'est pas grave, donc on ne dira pas. Voilà, et on va juste terminer sur les conséquences, sur le fait que la végéphobie, elle a des conséquences sur nos pratiques personnelles et politiques. Donc on l'a un peu dit, c'est le fait qu'on nie un petit peu le fait qu'on est végétarien pour les animaux. Enfin, pas nous peut-être personnellement, mais en tout cas beaucoup de végétariens nient le fait qu'ils sont végétariens par souci des animaux. Et d'ailleurs, selon Yves, qui est un vieux militant, il y a un certain nombre d'années, c'était pas possible du tout de le dire, quoi.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, Yves, quand il était au lycée, il disait qu'il était végétarien pour des questions philosophiques, parce qu'il voulait pas dire qu'il était végétarien pour les animaux. Tu t'étais d'ailleurs peut-être même pas formulé, en fait.
Si, si, c'était clair.
D'accord. Ouais. Voilà. Donc du coup, on en revient à ce que je disais, on parle pas des animaux, on nous embête pas, et tout va bien, quoi. Enfin, c'est plus simple, en tout cas, pour nous. Il y a aussi la polarisation sur l'efficacité. Mais après, c'est peut-être une critique que vous allez nous retourner, du coup.
Ah bon ?
Ben, je sais pas, on verra.
Non, mais la polarisation sur l'efficacité... Il y a très souvent des discours sur les différentes formes d'efficacité qui reviennent finalement à dire que il faut pas parler des animaux ou en tout cas de la façon la plus soft possible si on veut être efficace et qu'il faut parler de tout le reste par contre ça abondamment de l'écologie, du changement climatique, de la santé, de ceci cela. Et en fait, les gens qui ont ce type de discours, c'est des gens qui sont extrêmement assurés, qui savent de façon très claire que effectivement leur façon de faire est la bonne, que c'est celle-là qui est efficace, etc. Et que simplement, enfin, moi, je pense qu'en fait, ils ont tort. mais on va pas en débattre. C'est improuvable. De toute façon, on peut pas évaluer l'efficacité d'une stratégie sur des questions comme ça. Mais du coup, je trouve important de soulever au moins le fait que personne n'a parlé de façon assurée de ce genre de choses, et que sur ces débats sur l'efficacité, c'est des sortes de débats la façon dont les gens se posent comme ça avec tant d'assurance, il me semble qu'ils ne font que régurgiter. La leçon végéphobe qu'on a dû tous ingurgiter, comme quoi il faut montrer patte blanche, il faut pas parler des sujets qui fâchent, il faut pas s'énerver, il faut pas se montrer scandalisé, etc., etc. Enfin,
et donc
quoi?
Voilà. Merci pour la transition.
Ah bon?
Non mais Yves, voilà, il fallait faire un truc en couleur comme moi, ou ce que tu disais que tu as une autre couleur, parce que du coup, je sais plus t'arrêter. Donc, ce que disait Yves, c'est qu'on s'interdit certains comportements, mais du coup aussi on s'interdit certaines émotions, et notamment la colère, parce que je trouve que quand même par rapport à ce qui se passe pour les animaux, c'est quand même super horrible et tout le temps, et très très violent, et je trouve qu'on est quand même super zen par rapport à ça. Et c'est des directions qui seraient normales dans toute situation comparable, quoi. Donc, je sais pas, par exemple, il y a une boucherie au village, il y aurait, je sais pas, un endroit où on exploiterait des petits-enfants, on serait quand même super indignés, quoi. Et là, bon, après, il y a des... Bon, ça peut s'expliquer aussi, mais je pense qu'on se... on atténue beaucoup nos propres réactions et aussi nos propres émotions. Et je vais lire un truc que je trouve super bien écrit, et c'est Pierre qui l'a écrit. Il est pas là, mais là, c'est, il est là. Voilà, donc, voilà, je vous le lis parce que c'est, je saurais pas dire mieux. Donc, il parlait d'un dîner chez ses beaux-parents, voilà, c'était ça. Mm-hmm. Donc, pourtant, n'importe qui est touché par ce qu'il réprouve moralement, sauf les psychopathes. Par exemple, les deux personnes dont je parle, donc c'était des beaux-parents, seraient choquées si elles assistaient à une pendaison, une excision, la bastonnade d'un esclave, même si c'était légal dans le pays dans lequel elles se trouveraient. Je suis même prête à parier qu'elles seraient choquées par des vidéos d'abattoirs. Nous, donc végétariens, nous, non. Nous, autres végétariens, n'avons pas le droit de manifester notre sensibilité morale. Nos convictions devraient être froides et abstraites. Notre opinion sur la question de la viande devrait être aussi détachée et distante que notre opinion sur les causes de la chute de l'Empire romain ou notre avis sur la théorie quantitative de la monnaie. Voilà. Non, mais de fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le droit de passer pour des gros excités, quoi, alors que... Bon, c'était quand même bien écrit, non ? D'accord. Donc voilà, donc en restant calme, tranquille, serein, en argumentant froidement, etc., sur des questions banales, on contribue en fait à diffuser un message implicite qui est « Non, bon d'accord, il y a des milliards d'animaux qui meurent, mais c'est pas si important que ça, puisque de toute façon, on n'a pas l'air si choqué que ça, quoi. » Voilà.
Il y a quelque chose qui est vieux comme Pierrot, je dirais, c'est l'idée des priorités.
Oui, oui, oui.
Et il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais moi j'ai souvent difficulté dans les associations anti-discrimination de toutes sortes, anti-racistes, par cet argument-là, et notamment la dernière fois c'était les habitudes de sympathie et tout ça, et on parlait de racisme, on parlait de déficit, et effectivement, il n'y a pas encore de loi qui nous met en prison, on ne risque pas d'être un discriminé qui bon.
Non.
Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a
Et quand bien même, quoi, bon, même si tu n'avais pas fait ça. On va juste finir sans être interrompu, en fait, parce que sinon, parce qu'en plus, il y a David qui va partir et qui ne pourra plus prendre de notes. Donc, il nous reste... Non, mais... mais oui, Pierre, mais disons que tu prennes au moins toute la discussion, il prendra le débat.
D'accord.
Donc, il ne nous reste pas grand-chose et voilà, faut juste...
Et c'est pas grand-chose, mais c'est important.
Oui,
c'est,
bah, en fait, vas-y, fais donc.
C'est toujours dans les conséquences, à mon avis, qui sont non conscientes, les comportements induits, les attitudes induites, et aussi les types de modes de pensée induits par la pression sociale, il y a, outre le fait qu'on n'ose pas parler de la question animale et qu'on va utiliser plein d'autres raisons pour justifier son végétarisme, il y a le fait, il y a la privatisation de la question animale, ce qu'on a appelé comme ça, ou la personnalisation, c'est-à-dire que, au lieu de considérer qu'il s'agit d'une question qui devrait toucher tout le monde, enfin concerner tout le monde, on va faire comme si notre végétarisme c'était le résultat d'un choix personnel, que ça ne concernait que nous en fait. Et c'est-à-dire qu'on va nier qu'il s'agit d'une question de morale et que c'est une question que nous on a tranchée en considérant que moralement on n'avait pas le droit d'exploiter des animaux pour leur chair, à notre profit, et pour les raisons dérisoires que sont le bon goût dans le palais. Et on va garder une position qui en fait nous est imposée de l'extérieur, qui est une position de « c'est mon choix », la variante c'est « ça regarde que moi », enfin ce qui est une variante défensive. mais qui est en fait simplement une réponse à quelque chose qui nous est asséné en permanence, qui est « c'est ton choix, ça te regarde, laisse-nous tranquille, etc. » Donc ça, c'est une conséquence, à mon avis, extrêmement importante de la pression sociale, et qui vise à une dépolitisation de la question, c'est-à-dire que ça devient une question purement personnelle. On est végétarien comme on est, macrobiotique. Le végétarisme, ça n'est plus une protestation contre un système d'exploitation, c'est un régime alimentaire, etc. quoi. L'autre conséquence, qui est à mon avis extrêmement dommageable aussi d'un point de vue politique, mais qui est la traduction de ce que je viens de dire, c'est qu'on se laisse enfermer, à mon avis, dans des types d'identités qui nous sont eux aussi imposés de l'extérieur, mais qu'on reprend sans y penser. Que ce soit se laisser définir comme végétarien, végétalien ou vegan, c'est-à-dire finalement par des modes de vie ou par des régimes alimentaires, et non pas de façon politique par un projet de société ou par un modèle moral. Ben, je pense par exemple, se définir comme militant pour les droits des animaux, ou militant contre le spécisme, ou alors égalitariste, ou ce genre de choses, qui sont des modes de définition qui sont extrêmement différents et qui ont une toute autre portée. Et aussi, on se laisse, et c'est encore dans le truc de la privatisation, je pense qu'on se laisse enfermer à traduire notre position sous la forme d'éthique de la vertu. C'est Pierre qui a formulé ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va se définir encore... ce que j'appelle l'éthique de la vertu, ça va être le fait de se définir comme on est non-violent, ou alors un mode de vie sans cruauté, ou vegan, qui sont des prises de position qui sont personnelles. On est non-violent, comme... Enfin, éthique de la vertu, c'est on choisit des vertus qu'on choisit d'honorer, mais on aurait pu en choisir d'autres, donc ça reste personnel. J'oppose ça à une morale universaliste, par exemple. Si on utilise les notions de justice ou les notions d'égalité ou des termes politiques comme discrimination, etc., ce sont des termes qui ont vocation universelle, universaliste. Il s'agit pas, on parle plus de soi, on parle de la société en général, on parle des comportements en général, on parle du juste et de l'injuste de façon générale, quoi. C'est une autre façon de se positionner. Or, dans le mouvement animaliste, on se positionne massivement d'une façon qui est strictement individualisée, c'est-à-dire comme vivre sans cruauté, ou vivre de façon végane, ou être végétarien. Enfin, c'est de l'ordre de l'éthique de la vertu, quoi. C'est comme si je défendais des valeurs de générosité ou des trucs comme ça. Les gens sont libres ou non d'y adhérer. Tant mieux s'ils y adhèrent, c'est effectivement vertueux, mais ils peuvent très bien aussi adhérer à quelque chose d'un petit peu différent. Et ça reste dans le cadre de chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que ça amoindrit complètement la portée et la lutte, quoi. Quelque part, en se laissant définir ainsi, je pense qu'on ampute notre discours de la portée qu'il peut avoir, qui est une portée universaliste, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une conséquence de cette pression sociale, quoi. Et il me semble que ça n'a pas beaucoup d'équivalent dans les autres mouvements politiques. Une telle autoréduction, quoi. Voilà, moi je voulais un peu terminer là-dessus.
Je vais conclure juste à introduire le débat, du coup.
Ouais.
Donc, je voulais juste rappeler que c'était pas, enfin, qu'on n'a pas fait du tout quelque chose d'exhaustif et que c'est, faut plutôt voir le travail qu'on a fait comme on va dire une introduction au sujet, qu'on pense que le sujet il mériterait d'être plus exploré, approfondi, peut-être défini, etc. Il y a un site internet qui s'appelle, enfin, c'est un blog en fait, je crois, fr.vgphobia.info. Je sais pas si vous avez des gens qui viennent noter, que je répète. Non? Non? Si? D'accord. Donc, fr.vgphobia.info. Existe aussi en italien, mais du coup, c'est pas les mêmes articles, je crois. fr.vgphobia.info, qui se donne pour voilà, qui se donne pour objectif d'accumuler des témoignages variés. Donc en fait, si bah ton histoire par exemple, Galia, tu vois, enfin, je trouve que c'est quelque chose à envoyer et à mettre dessus, quoi, parce que ça permet aussi de bah, ça permet aussi de voir ce que c'est, ce que les végétariens vivent, et peut-être de un peu mieux comprendre comment on peut lutter contre ce genre de discrimination. Donc voilà, on a vu qu'il y a vraiment un gros, enfin des réactions très différentes par rapport au végétarisme. Enfin, il y a des comportements extrêmement variés de la part des gens, de la part des institutions, etc. Donc nous, on a trouvé légitime de les regrouper sous ce terme générique de végéphobie, parce qu'on pense que ces comportements, ils font vraiment système. Et ils font système, c'est pas parce que les gens sont méchants et se frottent chez eux, enfin se frottent les mains chez eux en ricanant sardoniquement, hein. C'est juste que c'est des processus qui sont inconscients et que c'est des trucs qu'on assez, enfin c'est des processus sociaux, complexes qu'on a intériorisé nous aussi, quoi. Et voilà, qui visent à nous faire taire ou à délégitimer notre parole, etc. Et ce qu'on appelle végéphobie, c'est plutôt un sous-ensemble de ce qu'on pourrait appeler animalsophobie.
Animalismophobie.
Mais c'est dur à dire quand même. Donc voilà. Donc enfin en gros, mais animalismophobie, en fait, à travers la végéphobie, enfin en tout cas c'est un sous-ensemble des discriminations que subissent les animaux, quoi. Voilà. Sauf que eux sont discriminés à travers nous à ce moment-là. Donc voilà. Donc juste ah oui, aussi pour dire que la situation elle a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et que le fait de remettre en cause la viande, ça paraît de plus en plus possible, mais justement, il y a ça qui nous freine encore, et même si ce sera peut-être pas un frein qui empêchera qu'on abolisse la viande, c'est en tout cas quelque chose qui retarde un petit peu cet objectif, et qu'il y a beaucoup beaucoup de victimes, donc ce serait c'est important d'essayer de travailler là-dessus pour aller encore plus vite, quoi. Voilà.
Et puis ce qu'on a là, on a duré plus qu'on aurait aimé, mais on a fait que reprendre des petits bouts et des petits points, des analyses et aussi des exemples qui sont donnés là-dedans. Et si vous ne l'avez pas lu, il faut y prendre, c'est à prix libre de toute façon. Et il y a vraiment plein d'analyses et plein de qui sont enfin beaucoup plus développées. Et ça vaut le coup, je pense, pour approfondir un peu le sujet ou pour se donner aussi des pistes pour approfondir au-delà, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est le début, en fait, d'un travail sur ces questions-là. Ça vaut le coup de d'y lire.